Radio Prague, les informations.
Réaction et tergiversation autour de la recherche de l'eurocommissaire tchèque. Les syndicats des transports publics pragois refusent de discuter avec la cellule de crise de la mairie. Et Barbora Špotáková sacrée athlète de l'année. Le chef du gouvernement, Jan Fischer, a décliné le poste d'eurocommissaire et a appelé l'EDS et le CSST à continuer leur pourparlers afin de trouver un nom qui leur convienne. Une décision qui a surpris Mirek Topolánek, le chef de l'EDS, qui ne comprend pas ce revirement. D'après lui, Jan Fischer avait bel et bien montré son intérêt pour ce poste. Ce dimanche, Jan Fischer a fait part au président tchèque Václav Klaus de son choix, qui s'est dit satisfait de la décision de son premier ministre. D'après la télévision publique tchèque, le candidat de Jan Fischer et de son gouvernement serait l'actuel gouverneur de la Banque nationale tchèque, Zdeněk Tuma. Le chef de l'EDS, Mirek Topolánek, a fait entendre sa différence en faisant savoir qu'il était contre cette candidature. Les syndicats des transports en commun pragois ont lancé un mot d'ordre de grève en raison du licenciement de 300 employés prévus par la direction pour fin janvier. Cette grève pourrait avoir lieu mardi prochain, mais rien n'est moins sûr. Le maire de Prague, Pavel Bém, a réagi en ouvrant samedi une cellule de crise afin d'éviter l'organisation de cette grève et réfléchir à la situation financière désastreuse des transports en commun de la capitale. Mais les syndicats des transports ont fait savoir qu'ils refusaient toute discussion avec un comité dont ils estiment qu'il est composé de personnes qui portent une responsabilité dans la situation de l'entreprise. Pavel Bém, quant à lui, estime que la grève annoncée est irresponsable et que les syndicats prennent, je cite, « la ville en otage ». Samedi, ceux-ci ont reçu le soutien officiel des sociaux-démocrates. Et dernier événement en date, ce dimanche, le maire de la ville de Prague a annoncé qu'il proposerait mardi au conseil municipal d'injecter 900 millions de couronnes pour apaiser la situation dans les transports publics de la capitale. À l'occasion de ses 20 ans d'existence, le Comité pour la prévention de la torture, organe du Conseil de l'Europe, dresse un bilan peu reluisant du système carcéral européen. La CPT fait la liste des mauvais traitements et conditions de détention à travers toute l'Europe et réitère au passage sa critique de la République tchèque, déjà épinglée dans un rapport sur le pays l'hiver dernier pour son recours à la castration chirurgicale d'une cinquantaine de délinquants sexuels sans choix réellement informé et qui est qualifié de traitement dégradant. Barbora Špotáková vient de recevoir pour la troisième fois consécutive le titre d'athlète de l'année. Détentrice du record du monde féminin de lancer de javelot, elle est également tenante du titre olympique. Cette année, elle a remporté la médaille d'argent au championnat du monde d'athlétisme de Berlin. Derrière la lanceuse de javelot sont venus se classer Petr Svoboda en course d'obstacles, suivi de Jaroslav Baba en saut en hauteur. L'équipe tchèque de hockey sur glace revient au pays bredouille. Les joueurs ont perdu les trois matchs qu'ils disputaient dans le cadre de la Coupe Karjala à Helsinki en Finlande. Dimanche, l'équipe nationale a été battue 4-3 dans les prolongations par la Russie. Lundi, jour de fête des Bordan, c'est encore un ciel largement couvert qui prévaudra avec de possibles averses et éclaircies selon les endroits. Les températures en légère augmentation oscilleront entre 8 et 12 degrés pour les maximales. Une météo qui ne devrait guère varier au moins jusqu'au milieu de la semaine. Fin du bulletin d'information de Radio Prague, mais restez à l'écoute, je vous retrouve tout de suite pour la culture. Ah !
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Renta František Mertl, vous êtes peintre, vous vivez en France depuis des années, depuis à peu près, je crois, la fin des années 50, 1958. On va revenir un petit peu au tout début, où êtes-vous né, où avez-vous grandi, et vous êtes aussi un enfant qui a grandi pendant la guerre. Où est-ce que vous avez vécu la guerre?
Je suis né à Třebíč en 1930. Juste avant la guerre, nous avons habité Prague. Quand Hitler a envahi la Tchécoslovaquie, mon père a décidé de partir, s'engager dans l'armée tchécoslovaque qui s'est créée en France, à Agde. Et il est revenu donc en 1945 avec l'armée tchécoslovaque en Angleterre.
Et vous, pendant ce temps-là, avec votre maman et avec vos frères, votre frère ?
Nous étions à Prague. Gestapo commençait à travailler chez nous, dans la famille. Et mon oncle nous a proposé s'est réfugié à Brtnice, c'est entre Jihlava et Třebíč, où nous avons passé 5 années de... C'est vrai qu'on était un petit peu plus abrités, mais on a eu très souvent un Gestapo chez nous. Pour nous, c'était bien sûr très dur de rester sans son père entre 9 et 15 ans, 14 ans. Il nous manquait beaucoup. Ce qui était particulièrement difficile, c'était quand Gestapo nous a interrogés et on a répété ce que mon oncle nous a dit, affirmé que ça nous intéresse pas, que mon père était très violent, qu'il nous battait, etc. Et on a essayé de protéger ma mère. Mais heureusement, mon père, en 1945, est arrivé avec donc l'armée tchécoslovaque. Et on a commencé à vivre à Olomouc. Et après, on a déménagé à Brno.
Quand la guerre se termine, vous avez donc 15 ans. Plus tard, vous allez vous lancer dans des études. Comment est-ce que vous avez choisi vos études et comment est-ce que vous êtes dirigé vers la peinture? Puisque je suppose que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous y intéresser.
À l'école à Brtnice, j'ai eu la chance d'avoir un homme assez exceptionnel. Il était le prof de dessin, de peinture, Alois Stoufal. C'est quelqu'un qui a peut-être remarqué que le dessin, je reste un peu plus longtemps. Et en 1948-49, j'ai décidé de faire d'étudier à l'école des arts décoratifs. Après, je me suis inscrit à l'Académie des Beaux-Arts à Prague. Et j'ai passé donc 5 ans dans l'atelier de Miroslav Holý.
Ça, c'était déjà après le coup de Prague, après le putsch communiste. Comment était un peu l'atmosphère à l'école? Est-ce qu'on vous enseignait le réalisme socialiste ou est-ce que la liberté était quand même un petit peu minime?
Très pénible, très pénible. Pratiquement tous les jours, ça commençait par une réunion où on a traité les problèmes politiques.
Alors, c'est dans ces années-là que vous avez rencontré votre épouse et que vous avez décidé de partir?
Oui, c'était la 5e année à l'Académie des Beaux-Arts. Nous avons trouvé une invitation de faire un séjour à l'École des Beaux-Arts à Perugia, en Italie. Une idée folle. Comment partir en Italie, de passer quelques mois à peindre, de voir de près Michelangelo, Giotto, tous ces grands. Quand on a demandé au ministre de la Culture l'autorisation de nous laisser étudier, de faire un séjour là-bas, à la fin, on nous a dit oui, c'est une très bonne idée, mais pas cette année, l'année prochaine ou dans 2 ans. Et là, une idée comme ça, mon père a vécu en Italie, il a gardé le contact avec un ami à Milano, il lui a demandé si éventuellement il pourrait pas me payer le séjour là-bas. Le séjour en Italie m'a marqué profondément et pendant mon séjour à Perugia, j'ai rencontré Jacqueline, qui était là pour des études d'italien et l'histoire d'art. On avait envisagé que pour l'année prochaine, elle va essayer de me trouver une invitation pour aller à Paris
pour repartir.
Pour repartir, tout ça. Ça a été un petit peu naïf parce que en arrivant à Mikulov, en Tchécoslovaquie, au retour, la police m'a confirmé le passeport en disant que c'était mon premier et dernier séjour, dernière sortie de la République tchèque. Curieusement, ils savaient absolument tout sur moi pendant les 4 mois.
Vous avez été suivi pendant les 4 mois?
J'ai été suivi par un étudiant qui était aussi à l'université à Perugia. Il savait qu'on est allé voir un film américain, on m'a donné le titre. Il savait que je me suis acheté 3 jeans, que j'ai dansé rock'n'roll dans un truc. J'ai annoncé la nouvelle à Jacqueline. Jacqueline est venue 2 fois à Prague. On avait envisagé de vivre ensemble en Tchécoslovaquie parce que je n'avais pas l'autorisation de sortir. Mais la police a bien rigolé parce que Vous êtes naïve, quelqu'un qui vient d'un pays capitaliste, d'origine bourgeoise. En plus, elle est née en Algérie, donc colonisateur. Et on a même souligné qu'elle était juive. Je sais qu'il y a, à l'Académie des Beaux-Arts, on a préparé un voyage, un séjour en Allemagne démocratique. Je me suis inscrit dans le groupe. C'est ce qui m'intéressait surtout, c'était un arrêt à Berlin.
Puis à l'époque, donc, le mur de Berlin n'était pas encore construit.
Il n'était pas encore là. J'ai réussi, au bout d'un moment, de me détacher de groupe et après de me cacher, d'attendre. C'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de Berlinois du secteur soviétique avaient la possibilité de travailler chez les Anglais ou chez les Américains ou chez les Français.
Et donc vous êtes passé sans encombre alors, de
l'autre côté ? Ça a été le deux contrôles sans problème. Et c'est le troisième contrôle, les nerfs ont lâché. Je me suis mis à courir. Je crois que j'ai couru ce jour-là.
Comme ça, Topec.
Un record beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite.
Et puis plus tard, vous avez rejoint Jacqueline alors ?
Moi, j'avais trouvé Jacqueline à Nice. J'avais pensé qu'il est absolument obligatoire d'aller à Paris pour
faire votre trou.
Voilà.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en général, on imagine les artistes, Paris, Montmartre, etc. Et vous, vous êtes installé dans le sud de la France, en province, c'est plutôt inhabituel.
J'ai fait deux, trois essais. Et j'ai eu un accueil à Nice absolument exceptionnel, aussi bien par la famille de Jacqueline que à la police où j'étais en train de me refaire mes papiers.
On vous a jamais pris pour un espion, pour un potentiel espion?
Si, ça a été, mais il y a eu un truc assez incroyable. Quand j'ai déposé ma demande, le gars qui me recevait, il m'a dit « Mais Miloš Nerko, c'est quelqu'un de la famille. » Et Miloš Nerko, c'est mon père.
Donc le policier connaissait votre père?
Il connaissait, il était dans l'armée avec mon père.
Alors ça, c'est le destin.
Vous imaginez? Incroyable. J'ai eu mes papiers un peu plus vite que les autres.
En France, vous êtes consacré à la peinture. Comment est-ce que vous avez petit à petit trouvé votre langage pictural?
C'était très difficile parce que dans les années 50-60, c'était surtout la peinture abstraite qui, en France, dominait, ou après l'école de Paris. En arrivant avec mes bagages et mon intérêt pour l'homme, enfin la peinture figurative, a été, vous savez, aujourd'hui on ne fait plus la peinture comme ça.
C'est plus trop dans le vent.
Voilà, c'est passé. Heureusement, j'avais à 10 ou 12 kilomètres de chez moi, de Nice, Pablo Picasso, qui faisait sa peinture et sa présence m'encourageait terriblement. J'ai découvert son travail, je l'ai rencontré quelques fois. C'était des moments tellement forts. J'ai continué ma peinture, mon intérêt pour l'homme, pour essayer de le comprendre, peut-être de savoir un peu plus aussi sur moi. Je ne suis pas encore arrivé, tout à fait. J'ai encore du boulot.
Est-ce qu'à part Picasso, disons, dont vous dites que sa présence finalement vous a aussi aidé, est-ce que vous avez des maîtres, enfin des peintres contemporains à l'époque ou anciens, oui, qui vous inspiraient?
Bien sûr, Michelangelo, Giotto, Mantegna. Et après, ça va peut-être vous étonner parce qu'il n'y a pas beaucoup de rapport avec mon travail. J'aime beaucoup ta pièce que j'ai rencontrée. Après, il y a eu Picasso. Et par la suite, mais ça c'était un petit peu Francis Bacon qui est arrivé avec sa peinture et a prouvé à des gens qu'on peut encore s'arrêter de peindre le visage d'un homme, son corps et son environnement, qui était pratiquement aussi mon problème.
Dans votre travail, vous confrontez en effet, vous interrogez sur l'homme et vous le confrontez justement avec tout ce qui est la technique ou l'homme par rapport à la technique, à l'ère technologique d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que cette espèce de confrontation, est-ce que ça vous vient peut-être de votre histoire aussi, du fait que voilà, vous avez connu le communisme?
Oui, c'est ça fait à peu près la moitié de mon travail. Par la suite, ça a changé. C'est vrai que ça m'a fait penser à des pressions que je subis aussi bien pendant la guerre que par la suite. Et il y a eu après un changement assez radical dans les années 80. Des amis m'ont amené en Afrique. Et le premier séjour, aussi bien au Sénégal ou au Mali ou au Niger ou au Burkina Faso ou au Kenya, m'ont complètement tourné la tête de voir l'homme dans sa version originaire, dans sa nudité, si on peut dire, et la simplicité de rapport, mais la force de ce rapport m'a fait retourner sur le dessin de, alors que je connaissais très très bien l'anatomie que j'ai étudié à fond à l'école des Beaux-Arts, je recommençais à dessiner l'homme dans aussi bien le poignet ou l'épaule, le genou, le corps avec lequel j'étais en contact en permanence. Je ne vais pas idéaliser la vie des Africains, mais dans pas mal de régions, j'ai retrouvé la simplicité d'une vie entre le ciel et la terre.
Une dernière question, une question un peu de principe, finalement, après tout ce que vous m'avez raconté, je pense que je me doute un peu de la réponse. Vous ne regrettez rien d'être parti, d'avoir... Bon, évidemment, c'était difficile, vous avez laissé une famille derrière, mais vous ne regrettez pas votre choix?
Non, absolument pas. Pas une seconde depuis 51 ans. La France est un pays exceptionnel. Un pays idéal n'existe pas. Il y a toujours quelques petits trucs. Mais dans l'ensemble, c'est un pays exceptionnel.
C'était le peintre français d'origine tchèque, Franta. Rappelons que ses œuvres font partie des collections les plus prestigieuses au monde, du musée Guggenheim à New York, en passant par le Centre Pompidou à Paris. Et la galerie Spielberg à Brno accueillait jusqu'au 8 novembre une exposition des œuvres de Franta. On se quitte maintenant, mais rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci de votre fidélité, à bientôt, à Roy.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc. Jarka Dissoubelova.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Direction aujourd'hui Velké Bilovice, une ville de 4000 habitants située dans le sud de la Moravie, au voisinage immédiat du grand ensemble de châteaux et jardins de Legnice et Valtice, classés au patrimoine de l'UNESCO. Par la surface de ses vignes, Velké Bilovice est la première commune viticole du pays. En 2001, elle a obtenu le statut de ville, c'est dire qu'elle est l'une des plus jeunes villes du pays, mais non pas par son histoire, qui remonte jusqu'à l'ère du néolithique. La première mention écrite de Velké Bilovice date de 1306. Ces jours-ci, la ville vit au rythme d'une grande fête du vin, celle de la Saint-Martin, célébrée le 11 novembre, quand les premières bouteilles du vin nouveau sont ouvertes. Un cep de vigne en raisin semble avoir été de tout temps le symbole de Bilovice, qui l'a aussi fait figurer sur ses armoiries. La commune a obtenu le droit de cultiver la vigne en 1550 et depuis, elle n'a cessé d'être un centre du terroir viticole de Břeclav. Aujourd'hui, elle est la première commune viticole à l'échelle nationale, comme le souligne la maire Marie Velková.
Mají zahrnuto asi 700 hektarů ve svém registru. Dále mají 650 vinných
La surface des vignes enregistrées dépasse les 700 hectares. En outre, Velké Bílovice compte 650 caves et près de 1100 vignerons indépendants. Cela veut dire que pratiquement chaque famille, chaque maison familiale possède une exploitation et une vigne.
Znamená to, že každá rodina nebo každý rodinný dům, který zde je, vlastní vinohrad.
La tradition du vin séculaire en Moravie du Sud, les premières vignes ont été plantées au 1er siècle de notre ère par des légionnaires romains. Dans la chronique de Velké Bílovice, on apprend que c'est l'empereur Marc Aurèle qui ordonna de cultiver la vigne dans les provinces au nord des Alpes. La ville conserve plusieurs caves dites Habanski qui ont été fondées après 1600 par les frères moraves utériens adhérents au courant réformateur des anabaptistes invités de Suisse en Moravie par les Liechtenstein, alors propriétaires de vastes domaines moraves. Excellents vignerons, artisans et bâtisseurs, les anabaptistes y ont planté de nouvelles vignes et construit les caves qui gardent leur charme et leur ambiance vieille de plus de 4 siècles. La culture de la vigne à Velké Bílovice a connu un nouvel essor au début du 19e siècle grâce aux colons français, comme l'observe le vigneron Stanislav Madl.
V 18. století na přelomu 18. a 19. století po
Un boom s'est produit au tournant des 18e et 19e siècles après les guerres napoléoniennes qui sont passées par la Moravie et notamment après la grande bataille d'Austerlitz, après laquelle beaucoup de soldats français blessés sont restés sur les champs de bataille. Et comme les ambulances n'existaient pas à l'époque et qu'ils n'avaient aucune possibilité de rentrer, ils se sont installés ici et ont commencé à cultiver la vigne pour se sentir comme chez eux.
Les vignes entourent Velké Bílovice de tous les côtés. Les touristes qui s'y rendent ont la possibilité de les découvrir à vélo. Cet été, un nouveau sentier de cyclotourisme a été ouvert avec 10 arrêts retraçant la tradition, l'histoire et les particularités du terroir et permettant de déguster des vins dans les caves locales, raconte la maire de Bílovice.
Le circuit propose aux touristes des escales entre les différentes parcelles de vignes ainsi que dans les caves. C'est l'occasion pour eux de parler avec les vignerons, de se familiariser avec la production du vin et les technologies utilisées.
Ona chodzi za mną, a ja za nią nie chodzę. Ona chodzi za mną, a jako ta owieczka szeja hoj, hoj, za zieloną trawę, zielona rozmaria.
Les 650 caves que compte Velké Bílovice sont un monde à part, une sorte de ville dans la ville. Pour que les visiteurs ne s'y perdent pas, on a donné aux rues les noms de cépages typiques du terroir. On écoute Stanislav Madl.
On y trouve des noms dérivés de Modrý Portugal, le Portugal bleu, puis il y a la rue principale qui s'appelle Belegradi. Belegradi est le nom d'une localité traditionnelle de Bílovice. Une autre rue est baptisée à la mémoire des présidents, la rue présidentielle.
Il n'y a pas que les vignes, mais aussi une belle vue des environs de Velké Bílovice que les touristes apprécient. Cette vue s'ouvre du haut de la dominante locale, une petite colline qui s'appelle Hradištěk, avec en haut une chapelle consacrée aux saints Cyril et Méthode à saint Venceslas et au patron des vignerons saint Urbain. Par temps clair, il est possible d'avoir à portée de vue tous les lieux intéressants aux alentours, plus ou moins éloignés, dit notre guide.
Ainsi, on peut apercevoir les tours de la centrale de Dukovany ou les hélices des centrales éoliennes de l'autre côté de la frontière, en Autriche. De l'autre côté, c'est la tour du minaret de Lednice. Et plus à l'est, on voit les crêtes blanches des Carpates.
La ville de Velké Bílovice, mais aussi ses environs, valent à coup sûr le détour. Au nord se trouve Čekovice, une autre commune viticole réputée pour ses caves des Templiers du XIIIe siècle. La région offre des conditions idéales pour le tourisme et le cyclotourisme. Les visiteurs n'ont que l'embarras du choix entre les circuits plus courts et ceux plus longs, dont celui baptisé Velké Pavlovice qui mesure 240 km et qui conduit jusqu'aux Carpates blanches à l'est et au parc national de Podilí à l'ouest. De Velké Bílovice, il n'y a pas beaucoup de kilomètres pour se rendre au complexe de châteaux et jardins de Lednice et Vortice, où la piste cyclable longe le canal et les différentes constructions romantiques se référant à l'Antiquité, telles que le temple d'Apollon ou l'Arc de Triomphe dénommé Rendez-vous. C'est la fin du programme en français sur Radio Prague. Merci de votre fidélité. Comme vous le savez, l'information continue sur notre site web www.radio.cz. Au revoir et à très bientôt sur nos ondes.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear radio.